Bonsoir à tous, Nicolas Pec vous avec vous dans ce studio sur VOA Afrique. On est évidemment sur Sporama. On va parler de sport comme tous les lundis dans cette émission. Merci de votre fidélité. Le numéro de téléphone toujours le même, le 001 202 205 26 33. 001 202 205 26 33. Merci de votre fidélité. Vous nous laissez également vos commentaires sur la page Facebook. On va évidemment suivre ça. On va d'abord saluer nos intervenants et tout d'abord Amine Birouk qui se trouve à Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va saluer également notre ami Amdine C qui se trouve en Italie ce soir. Bonsoir Amdine.
Bonsoir Nicolas Pinot et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
On va saluer également Thierry Kamundi, notre station partenaire à Kinshasa, Top Congo FM. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Nicolas, bienvenue à Kinshasa, bonsoir à tous.
Et on va saluer Élisée Mpatine qui se trouve avec nous à Boïcon, c'est au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et bienvenue à Boïcon.
Alors merci de votre fidélité, on va évidemment attendre vos commentaires les uns et les autres pour parler de l'actualité sportive. On va revenir tout d'abord sur les matchs des éliminatoires hein, des moins de 20 ans qui ont eu lieu pour la CAN des moins de 20 ans 2019. Elle aura lieu au Niger, tout était attendu, c'est un premier tour évidemment assez intéressant. Et nous d'abord hein, le Gabon qui a pris le large à domicile devant le Togo et puis la Guinée Bissau qui s'impose 1-0 à domicile face à la Sierra Leone. Alors Élisée Oumpatine, on le disait, la victoire intéressante, 4-0 hein, du Gabon devant le Togo. Hein.
Oui, c'est une victoire méritée hein, pour les Gabonais qui ont pratiquement dominé cette partie face aux jeunes étrangers du Togo, 4-0. Il faut le dire déjà, puisque à quelques minutes de la fin de la rencontre, les Togolais venaient déjà 3-0, pour ne pas dire en première partie, les Togolais ont courbé les chines, puisque les Gabonais ont largement dominé cette explication. Il faut le dire, puisque déjà dans cette rencontre, la Manche allait compter énormément. Eh bien, les Gabonais ont su profiter de la chance et ils ont quand même déroulé et ont marqué coup sur coup 3 buts en première partie. Eh bien, en seconde partie, eh bien, ils ont géré cette explication et finalement l'ont emporté sur la marque 4-0. Le match retour s'annonce donc compliqué pour les jeunes joueurs togolais et ce sera difficile. C'est vrai que rien n'est impossible en Afrique, hein, sur le continent africain, il faut le dire, puisque même à 4-0, hein, tout est permis du côté de l'OMM, hein, et c'est véritablement impossible hein, sur le papier, puisque au vu de cette explication, eh bien, les Gabonais ont dominé dans tous les compartiments.
Merci beaucoup Élisée. Et puis avec vous Amine Birouk évidemment, la défaite surprenante hein, en Mauritanie, 2-0 des Lionceaux de l'Atlas. Hein.
Surprenante sur le fond et la forme. Mais il faudrait juste rappeler que l'équipe de Mauritanie, ou le football mauritanien, est un gros progrès. L'équipe du Maroc a déjà eu dans ses catégories d'âge l'opportunité de croiser le fer avec les Mauritaniens, notamment dans les tournois de l'Afrique, et c'était des résultats assez tangents. Pour ce qui est des matchs, pour ceux qui l'ont suivi à la télévision, qui l'ont suivi sur petit écran, c'était une rencontre où les Mauritaniens ont pris l'ascendant et ont su profiter de leur temps fort pour marquer des buts. Les Marocains ont eu l'opportunité de revenir un peu à la marque et de marquer ce petit but à l'extérieur qui peut avoir son pesant d'or. Ils sont arrivés à leur fin, mais évidemment, une décision assez litigieuse de l'arbitre a fait que la Mauritanie vient au Maroc avec un avantage de but, ce qui pourrait constituer une surprise assez importante. Il faut aussi rappeler que le Maroc, depuis la CAN 2005, n'avait jamais parvenu à se qualifier dans ses catégories d'âge. C'est la génération qui était d'ailleurs parvenue en demi-finale du mondial de la même catégorie. C'est peut-être là où le bas blesse dans les catégories de jeunes au Maroc. Les U17 et les U20 depuis très longtemps n'ont pas réussi à s'inviter dans le grand concert des nations africaines. Il va falloir peut-être réparer ça, à commencer par une qualification au match retour avant d'avoir affronté la Guinée au tour suivant.
Merci beaucoup et on va parler avec vous Thierry Kamundi du match nul 0-0 en Tanzanie hein, entre les jeunes Léopards de la RDC face à la Tanzanie à Dar es Salaam. Hein.
Ah oui, les Leopardo qui avaient pour mission non seulement de réussir un bon match là-bas, mais en plus de laver la France subie par leurs aînés. Hein. Rappelez-vous du match amical international qui a vu les Léopards s'incliner 2-0 à Dar es Salaam. Ils ont limité la casse, ils ont plutôt bien joué dans le contenu du match. C'était très intéressant pour les hommes de Jean-Claude Moukanya. C'est seulement aujourd'hui que les Léopards ont regagné Kinshasa pour préparer le deuxième acte de cette double confrontation prévue le 20 avril prochain, ici au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Tout le monde est optimiste après tout ce qui s'est passé au match aller, surtout le contenu du match. Ils ont essayé beaucoup de choses, ils ont eu quelques occasions et sérieusement inquiété les juniors tanzaniens sur place. On verra bien ce que ça va donner au match retour. Mais on reste confiant en tout cas, même si les Léopards ont depuis très très longtemps n'ont plus préparé aux compétitions des jeunes, mais là ils montrent des très bonnes choses depuis quelques mois maintenant et surtout sur ce match. Ils restent confiants, nous a d'ailleurs rappelé tout à l'heure leur sélectionneur en vue du match retour.
Merci beaucoup Thierry. On va rappeler que le Bénin avait obtenu son billet suite au forfait du Libéria. Les Écureuils qui affronteront la Gambie au tour suivant, qui verra également l'entrée en liste des équipes exemptées de ce premier tour. L'Afrique du Sud, l'Angola, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, l'Égypte, la Libye, le Mali, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan et la Zambie, tenantes du trophée remporté chez elles. On va voir avec vous, Amdine, si le Sénégal était exempté sur ce premier tour. Qu'est-ce qu'on attend du côté de Dakar de ces éliminatoires pour les moins de 20 ans?
Comme vous le savez, le Sénégal a été finaliste malheureux de la dernière édition. Les Lions sénégalais s'étaient inclinés devant comme les Chipolo Polo juniors. Donc, depuis deux éditions, le Sénégal est finaliste. Donc, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Au Sénégal, on croit à cette catégorie d'âge des moins de 20 ans et on est en train vraiment de préparer. D'ailleurs, le Sénégal a eu à jouer deux matchs amicaux contre les Lions de l'Atlas du Maroc, devaient affronter les Mourabitoun. Donc, ils se sont préparés chez nous au Sénégal. Ils ont joué deux matchs. Le premier a été gagné par les Sénégalais. Le deuxième, il y a eu match nul. Donc, le Sénégal prépare sérieusement ses éliminatoires, puisque le Sénégal a eu à participer pour la première fois de l'histoire à deux Coupes du Monde consécutives et a joué deux finales consécutives. Donc, pour le moment, maintenant, l'objectif reste de se qualifier, mais également d'aller gagner cette coupe qu'on rêve au niveau du Sénégal. Nicolas Pino.
Voilà, compétition qui sera organisée au Niger, je le rappelle, en 2019. On marque une première pause, c'est Sporama sur VO Afrique. Vous êtes toujours à l'écoute de Sporama sur VOA Afrique. On va venir à présent parler, c'est intéressant, de cette short list qui n'est pas encore très courte, des entraîneurs potentiels pour entraîner le champion d'Afrique 2017. Je parle bien évidemment du Cameroun, puisque vous le savez, Hugo Brousse a été débarqué. Il va falloir trouver un successeur pour celui qui va entraîner évidemment le Cameroun, qui doit en principe organiser cette Coupe d'Afrique des Nations à domicile en 2019, et il y a eu plusieurs, évidemment, postulants. Alors, des classiques, je vais vous en citer certains, notamment Alain Giresse, qui est passé par le Gabon, le Mali et le Sénégal, ou encore Hubert Velud, le sélectionneur du Togo, ou encore Philippe Troussier, mais aussi Pierre Lechantre, ce dernier, qui est actuellement l'entraîneur du Simba en Tanzanie, fut le sélectionneur, puis le directeur technique national du Cameroun au moment des victoires à la CAN de 2000, puis aux Jeux Olympiques de Sydney. Ça va être intéressant, on va vous entendre les uns et les autres concernant, évidemment, ce qui se passe du côté de la tanière camerounaise, peut-être avec vous Élisée Mpatine. On le disait justement, la course à la succession qui est lancée pour les Camerounais. Est-ce qu'on va avoir encore un sorcier blanc selon vous? Ces derniers temps, ça n'a pas porté vraiment chance aux Camerounais. Est-ce que selon vous, on s'achemine, comme c'est encore trop souvent le cas sur le continent, par une solution occidentale?
Oui, évidemment, c'est le but, puisque depuis Jean-Paul Atono, celui là même qui a porté une médaille olympique à cette sélection des Lions Indomptables, on peut le dire, une sélection olympique en 2000, où cette formation a remporté la médaille d'or avec cette génération. Patrick Mboma, Samuel Eto'o en attaque, et qui a dû battre en finale l'Espagne. Il faut dire que c'est souvent difficile de voir un local à la tête de cette équipe camerounaise. Maintenant, on se dirige véritablement vers un expatrié, puisque les noms que vous venez de citer il faut dire qu'il y en a qui ont déjà une avance considérable. Il y en a qui maîtrisent le football africain, notamment. Et il est venu d'un qui a entraîné le tout-puissant Mazembe et qui a remporté la Ligue africaine des champions avec les Corbeaux. Et il faut le signaler. Donc, c'est une question du. Bon, en tout cas, il faut le dire puisque les Camerounais sont déjà habitués à avoir confiance à des entraîneurs expatriés cette fois-ci. Compte tenu de cette sorte qui a été établie, on remarque qu'il y a plusieurs entraîneurs expatriés qui suivent là-dessus. Donc, Nicolas, vous avez posé cette question. On risque d'avoir encore un expatrié à la tête de cette sélection camerounaise. C'est vrai que, bon, la Fédération camerounaise ne sait pas véritablement prononcé par rapport à qui prendra cette sélection. Mais une chose est sûre, on sent véritablement que ce sera encore un expatrié qui prendra cette sélection. Surtout que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations aura lieu au Cameroun. Donc le challenge est très ouvert, très grand, j'allais dire. Donc il faudra un entraîneur expérimenté pour pouvoir, bien sûr, garder ce titre acquis il y a de cela 2 ans.
Alors la question maintenant est toute trouvée. Il y a évidemment deux autres postulants sur cette liste, notamment Claude Makélélé, hein, qu'on connaît bien du côté de Kinshasa, et Thierry Kamboundi, c'est intéressant également. On a Willy Sagnol, on s'en souvient, il avait également postulé pour le Ghana, il n'avait pas été retenu, mais Willy Sagnol, c'est surtout l'homme des propos plus que contradictoires par rapport, et plus que polémiques par rapport aux joueurs typiques africains. Est-ce que finalement on a raison de l'accueillir sur le continent selon vous, Willy Sagnol?
Ben, il veut peut-être se faire pardonner ou montrer que ce qui s'est passé lorsqu'il était entraîneur de Bordeaux, ce n'était pas plus que ce qui a été raconté dans la presse. Willy Sagnol, c'est un jeune entraîneur, c'est vrai, qui a eu qui a acquis l'expérience avec la Ligue 1 et le club de Bordeaux. Et là, il veut se lancer dans l'Afrique. C'est plutôt intéressant, mais moi, je me demande, parlant du Cameroun, s'il aura de la patience, ouais. S'il va accepter de travailler dans ces conditions-là. On parle de successeur d'Hugo Brousse, mais voyons comment cet entraîneur belge qui a eu à remporter la CAN avec le Cameroun a été débarqué. Tous les problèmes qu'il a eu avec la fédération camerounaise, tous les problèmes que ses presseurs ont eu, et tous ces problèmes qu'il y a toujours autour de la sélection nationale camerounaise, alors que les Lions Indomptables s'apprêtent à défendre leur titre devant leur public lors de la prochaine Coupe d'Afrique qu'ils vont accueillir. Donc, c'est aussi l'environnement qui va, je me demande, lui permettre de travailler ou pas. Moi, je miserais plutôt sur un entraîneur plus expérimenté qui connaît mieux le continent. On a cité beaucoup de noms, notamment Hubert Velud, on a cité les noms de l'ancien sélectionneur du. Ainsi que du Mali, la place ou la chance devrait plutôt être accordée à ces entraîneurs qui connaissent l'Afrique et ses réalités, qui connaissent parfois et qui ont vécu des relations parfois tendues, difficiles avec leur fédération et qui savent comment s'y prendre. Un Willy Sagnol débarqué en Afrique pour la toute première fois, va-t-il accepter de travailler dans ces conditions? Va-t-il accepter de rester en Afrique? Voilà, je me pose beaucoup de questions, mais je miserai plus sur un entraîneur beaucoup plus expérimenté et beaucoup un meilleur connaisseur du continent africain.
Oui, ce serait compliqué, ce serait un gros morceau, hein. C'est un peu ce que vous voulez dire, compte tenu du contexte africain, ce serait un peu compliqué évidemment de commencer par le Cameroun, mais qui vivra verra, on verra en tout cas si le comité de normalisation pourra trouver un successeur à Hugo Brousse. On va suivre ça, on va marquer une nouvelle pause sur VOA Afrique. Allez, on va parler à présent Ligue des Champions. Ça l'est, le coup d'envoi des quarts de finale, c'est ce week-end en Europe avec une affiche alléchante, évidemment. Juventus-Turin contre le Real Madrid. On rappelle le double tenant du titre contre la dernière équipe à avoir éliminé le Real Madrid. C'était dans l'édition 2015, hein, 3 ans déjà, évidemment. On va avoir un match de feu à Turin, puis le match retour, évidemment. On va en parler avec vous, hein. Vous êtes un supporter du FC Barcelone, Amdinsi, hein, pas de secret entre nous. Mais quand même une belle affiche, qu'est-ce qui vous fait saliver d'avance, avec notamment le retour de Zinedine Zidane à la maison, hein, face à la Juventus Turin?
Tout à fait, c'est une affiche alléchante entre deux redoutables équipes, mais il faut dire, Nicolas Pineau, que la faveur des pronostics est un peu pour cette équipe du Real de Madrid, surtout après la démonstration de force face au Paris Saint-Germain, on dira que la Juventus partira un peu avec la faveur des pronostics, mais ce n'est pas gagné d'avance, puisque, comme vous le savez si bien, les Italiens sont des équipes très difficiles à manœuvrer, surtout la vieille dame, la Juventus. Vous l'avez dit, c'est la dernière équipe à avoir gagné cette équipe du Real de Madrid. Et puis, c'est les remakes également de la finale, hein. Ils feront tout quand même pour prendre leur revanche. Pour le moment, Nicolas Pineau, je pense que ce sera du 55 pour le Real de Madrid et 45 pour la Juve, puisque c'est un match indécis. Et je pense que les amateurs du ballon rond vont se régaler avec cette affiche de rêve.
Oui, puis c'est, on va poser peut-être la question évidemment à Amine Birouk. Amine, pour Zinedine Zidane, il a annoncé son envie de continuer. On sait que son contrat court jusqu'en 2020, mais c'est qui tout double, hein. La saison va être considérée, hein, elle va être ratée cette saison si on ne s'impose pas en Ligue des Champions du côté des Galactiques, hein.
Et quand on connaît les exigences du président du Real Madrid, on comprend forcément que Zidane ne soit pas dans une posture favorable. Il a un effectif qui est passé à côté de la Liga, qui s'est sabordé en Copa del Rey et qui, je dirais, s'accroche à la Ligue des Champions à une perspective de signer un triplé historique. Je voudrais juste préciser que lors des confrontations face à la Juve, il y a un paradoxe. Lors des matchs, lors des finales, que ce soit en 98 ou en 2017, le Real a gagné, mais lors de doubles confrontations sur 180 minutes, c'est quasiment à chaque fois la Juve qui se qualifie. Le dernier précédent en faveur des Merengues, c'est la saison 86-87, et à l'époque, Michel Platini portait les couleurs de la Juve. Ça veut dire que la Juve est très compétitive sur deux matchs. La Juve veut, je dirais, sera privé de joueurs, Benatia et Pjanic lors du match aller, mais elle possède dans son effectif suffisamment d'éléments compétitifs, à commencer par des vétérans comme le gardien Buffon, comme Chiellini, comme Barzagli, des joueurs capables de faire la différence, comme Higuain, qui est un ancien du Real, comme Dybala, qui est la petite perle de la vieille dame, et puis il ne faut pas oublier des joueurs revanchards comme Douglas Costa, qui vient du Bayern et qui a été éliminé la saison dernière par le Real Madrid. Le Real débarque en terrain miné devant une Juve qui est capable sur deux matchs de créer la sensation. Si Amine a dit 55 pour le Real, 45 pour la Juve, je serais un peu plus circonspect, je dirais que ce sera du 50-50 et que tout devrait se décider au Santiago Bernabéu. Dernier précédent sur deux confrontations en 2015, la Juve avait gagné à domicile 2-1 et avait réussi à accrocher le Real à Madrid un partout.
Merci beaucoup Amine Birouk qui est avec nous. On va évidemment parler des autres rencontres, notamment Séville face au Bayern Munich, peut-être avec vous Élisée Ongpatin, et surtout hein, ce derby anglais entre Liverpool et Manchester City. On a notamment une pensée pour les Africains de Liverpool avec Mohamed Salah et notamment le Sénégalais Sadio Mané. Qu'est-ce que vous attendez de ce derby anglais à pareil niveau de la compétition? On rappelle qu'en championnat, logiquement, les Citizens de Manchester City seront champions, sauf accident industriel.
Oui, bien évidemment, hein, puisque vous l'avez dit, les Citizens ont une avance confortable, hein, dans la première ligue. Mais il faut dire que pour faire rencontre à une élimination directe, il faut avoir toujours faire attention, puisque Liverpool a une attaque de feu après le Paris Saint-Germain, hein, dans sa ville de France. C'est vrai que le Paris Saint-Germain a été éliminé par le Real Madrid. Il faut dire, hein, que le Liverpool FC a aussi une attaque qui s'est considérée, avec ce pilier d'attaque considérable, hein, avec le Brésilien Roberto Firmino et puis les deux Africains, Mohamed Salah, l'Égyptien, le Goliado, actuel meilleur buteur du championnat anglais, surtout le Sénégalais Sadio Mané, qui a quand même une très belle prestation durant cette saison qui a commencé, même si il a fait marquer en championnat. Il faut dire que c'est une attaque qu'il faut considérer déjà face à FC Porto. Ils ont démontré cette maintenant à cette rencontre à élimination directe. Il faut être très attention. Jürgen Klopp est vraiment habitué, hein, à ce genre de compétition. On l'a déjà vu il y a de cela 3 ans où il a amené le Borussia Dortmund en finale de cette Ligue des Champions, finale perdue contre le Bayern de Munich. Donc Jürgen Klopp comprend connaît bien cette compétition. Et attention, hein, c'est vrai que Joseph Guardiola hein, est un habitué de cette compétition, mais déjà en championnat, Manchester City a eu du mal à se défaire de cette équipe de Liverpool. Nous allons suivre de très près cette explication, mais j'ai un sentiment un peu du côté de Liverpool, puisque Liverpool a un jeu très direct, hein, et quand c'est comme c'est direct, eh bien, Manchester City a du mal à jouer.
Merci beaucoup, évidemment, Élisée Ungpatinon. On va prendre le pouls aussi du côté de Thierry Kamboundi. Thierry Kamboundi, on a le dernier épisode de ces quarts de finale. Ce sera évidemment Barcelone contre l'AS Rome. Moi je vais mouiller. Est-ce qu'on pourrait penser qu'on aurait finalement un Real, Bayern, Manchester City et le Barça en demi-finale? C'est un peu votre sentiment ou vous y voyez plus de surprises, vous?
Non, je n'y vois pas forcément des surprises, mais je ne voudrais pas me livrer comme vous dans des pronostics. Vous savez, c'est la Ligue des Champions, c'est une compétition imprévisible. Hein. On parlait tout à l'heure de Liverpool et Manchester City. Ce sont les deux meilleures attaques de la première ligue anglaise. Ça sera fou. Moi, je m'attends à un match avec beaucoup de buts. Les Reds ont montré qu'ils peuvent, avec une attaque de feu, Firmino, Sadio Mané, Mohamed Salah qui a égalé le record de Didier Drogba. Ça mérite d'être signé. Didier Drogba était le seul Africain pour le moment en première ligue à avoir, jusqu'hier en tout cas, avoir inscrit 29 buts sur une saison. Mohamed Salah a inscrit son 29e but le week-end en championnat. Il a encore 6 journées devant lui pour en marquer d'autres et donc battre ce record de Didier Drogba. Ça s'annonce fort, même si je doute fort de la défense de Liverpool qui, à mon avis, est quelque peu fébrile. Et face à l'attaque de feu de Manchester City, ça risque d'être très très dangereux pour les hommes de Jurgen Klopp. Mais attention à des surprises. C'est vrai, la dernière affiche va opposer à l'AS Rome au FC Barcelone. Je ne vois pas trop de surprises là-dessus au vu de leur parcours cette saison et même de leur performance en championnat. Ça sera très très serré, surtout hein, la première affiche que je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de commenter, le Real Madrid contre la Juventus de Turin, le remake de la finale et surtout le fait que la Juve a régulièrement eu à éliminer le Real Madrid à cette étape de la compétition. Même la génération de Zinedine Zidane, de Ronaldo, les Galactiques ont été éliminés également par la Juventus de Turin, d'un certain David Trezeguet, de Gigi Buffon et les autres. Ça va être très difficile. Zinedine Zidane a reposé Ronaldo ce week-end, qui n'a pas joué. Zidane a récupéré en plus Isco, qui a été très bon avec la sélection espagnole, et son capitaine Sergio Ramos, qui sont tous revenus et qui sont du voyage de Turin. Ça s'annonce très très disputé, mais au final, quoi qu'il en soit, Nicolas, même si je ne veux pas affirmer ou démentir vos pronostics, on s'attend à des très très belles affiches des demi-finales.
Bien évidemment, on va suivre ça hein, sur VOA Afrique. On est aux États-Unis, on va vous parler de basket NBA. Évidemment, Houston est tombé de son nuage hier à 2 semaines du coup d'envoi des playoffs avec une nette défaite 83-100 sur le parquet de San Antonio qui a de son côté fait un grand pas vers la qualification. À l'ouest toujours, Kevin Durant a relancé Golden State qui restait sur 3 défaites consécutives. Et c'est une victoire 117-107 contre Phoenix. Et puis enfin, Oklahoma City a quasiment son billet pour les playoffs en poche après s'être imposé à la Nouvelle-Orléans 109-104. Voilà, et vous l'entendez, on va espérer cette musique de fin de Sporama. Ainsi va s'achever cette émission. Merci à tous de nous avoir accueillis. On va évidemment saluer nos intervenants. On va saluer Amine Birouk qui est avec nous depuis le Maroc. Amine, merci d'avoir été avec nous.
Merci à toi Nicolas et à la semaine prochaine.
On va saluer également Thierry Kamboundi de Top Congo FM qui est avec nous via Skype. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Thierry, salutations. Bonsoir Nicolas, salutations particulières à Georges Léonard, salut également.
On va saluer également celui qui est avec nous depuis l'Italie, Amdine Si. Bonsoir Amdine.
Merci Nicolas, ciao.
Ciao, ciao, eh ouais, il est déjà italien. On va saluer Élisée Ungpatinon avec nous depuis Bouicon. Bonsoir Élisée. Amdine, Élisée, vous nous entendez?
Oui, voilà. Nicolas, et à lundi prochain.
Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. La mise en onde assurée par Georges Léonard Sagno et Fredner Kayemit. Pardon pour ces petits problèmes techniques. Merci à tous de nous avoir suivis. Nicolas Pineau à la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique.